d'évacuer tout défaut. Et donc, pour cela, les systèmes doivent prendre la main.
La voiture autonome, figure de proue de l'intelligence artificielle, incarne ce fantasme d'une automatisation globale au service de l'homme, prenant entièrement la main sur chacune de ses décisions pour mieux assurer sa sécurité et libérer son temps. Pourtant, malgré presque 100 milliards d'euros investis, hors circuit balisé, nulle voiture autonome n'est actuellement autorisée à circuler sans un chauffeur humain prêt à reprendre la main.
C'est très facile d'utiliser le deep learning pour créer un prototype peu fiable de quelque chose de très difficile, par exemple la conduite. Mais c'est très difficile de faire évoluer ce prototype au point où il serait suffisamment fiable et suffisamment performant pour être utile en pratique, utile sur les routes par exemple.
C'est le système même de la production de l'intelligence artificielle aujourd'hui qui demande, pour des raisons économiques, pour des raisons politiques et parfois pour des raisons techniques, le fait qu'on lance un système qui n'est pas fonctionnel ou pas entièrement fonctionnel. C'est ce qu'on appelle dans la Silicon Valley « fake it until you make it ». Il faut faire semblant et un jour ça va devenir vrai. Sauf que le moment où ça devient entièrement vrai est constamment repoussé pour la simple et bonne raison que ces intelligences artificielles n'atteignent jamais une situation ou un niveau de performance tel qu'on puisse se passer des êtres humains.
L'échec annoncé de voitures totalement pilotées par l'intelligence artificielle a engendré un nouveau métier, celui des assistants humains pour machines en détresse. Comme dans cette entreprise où des employés sont formés à reprendre la main de véhicules pas tout à fait autonomes. En 10 ans, c'est une économie mondiale qui s'est développée autour de l'assistance à l'intelligence artificielle. Partout dans le monde, des centaines de milliers de travailleurs, la plupart du temps sous-payés, préparent les données pour l'apprentissage des machines, supervisent leurs réponses, les corrigent ou les remplacent parfois purement et simplement. Cette nouvelle forme de travail humain, qui se cache derrière des systèmes estampillés « intelligence artificielle », a été globalement pensée par le patron milliardaire du géant du numérique, Amazon.
Jeff Bezos avait annoncé le lancement de Amazon Mechanical Turk en 2005 et il ne se cachait pas du fait que ce projet était un projet de artificial intelligence, donc de fausse intelligence artificielle pour faire court, c'est-à-dire de personnes qui, d'un certain point de vue, font à la main le travail nécessaire pour faire fonctionner ces algorithmes.
Amazon Mechanical Turk est une plateforme d'offres d'emploi qui pallie cet apparent paradoxe. La généralisation des systèmes de décision automatique et l'incapacité de l'intelligence artificielle à être réellement autonome. Son nom fait référence à un célèbre faux automate joueur d'échecs du XVIIIe siècle, le Turc mécanique, qui cachait dans son socle un être humain.
Ce nom fait ouvertement référence au travail dissimulé. Ils ne cachent même pas leurs intentions.
On est face à une situation paradoxale. C'est-à-dire que, d'une part, on demande aux êtres humains de faire ce que les robots ne sont pas capables de faire, ce que les processus automatiques ne sont pas capables de faire, et en même temps, les êtres humains même, qui sont préposés à ce type de travail, se trouve face à une activité qui a des marges de manœuvre et des marges d'autonomie beaucoup moins développées que dans le passé.
Open the pod bay doors, Hal.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
La science-fiction a instillé dans notre imaginaire la peur que les machines pourraient devenir tellement intelligentes qu'elles parviendraient à nous dominer, comme le redoutable Hal imaginé par Stanley Kubrick.
This mission is too important for me to allow you to jeopardize it.
Mais c'est un tout autre présent qui se profile. Ce ne sont pas des machines devenues tellement intelligentes qu'elles prendraient le pouvoir sur des humains trop bêtes pour elles, mais des humains qui se rabaissent peu à peu à la logique standardisée des machines. Dans les call centers, ce sont les employés qui sont soumis au respect d'un algorithme et de plus en plus souvent surveillés par une intelligence artificielle. Le système CallMiner identifie les mots-clés de la conversation pour s'assurer que le protocole est respecté. Les émotions exprimées par le client et par l'employé sont analysées et en cas d'emportement, le système adresse en direct des recommandations comme « montrer davantage d'empathie ». À l'issue de la conversation, une note est attribuée à l'employé. Sous un certain score, il est licencié automatiquement.
Nous avons l'avènement d'une ère du travail où des légions d'individus sont réduits à s'aligner à la dynamique des systèmes interprétatifs, de systèmes d'intelligence artificielle, conçus en vue de la plus grande optimisation et la plus grande productivité, et qui interdisent toute négociation.
Les entrepôts de Amazon sont en réalité des cauchemars dystopiques dans lesquels des êtres humains doivent chercher à s'adapter à un système qui n'est pas entièrement robotisé.
Dans les hangars géants des centres logistiques, la puissance de calcul de l'intelligence artificielle nous aide finalement assez peu à comprendre la complexité du monde réel pour nous aider à faire les meilleurs choix. Les gestes des humains sont soumis aux ordres des machines qui calculent l'optimisation idéale des flux de marchandises.
Sont réduits à des robots de chair et de sang, si j'ose dire.
L'automation, pour moi, est l'une des formes ou des ruses qu'on met en place pour faire subir des contraintes à des masses énormes de personnes.
Et en fait, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas les erreurs des ordinateurs. Ce qui m'inquiète le plus, c'est les êtres humains qui veulent du pouvoir, qui veulent contrôler les autres et qui vont avoir de plus en plus accès à des technologies très puissantes.
There's always hope.
Il y a toujours de l'espoir. Il faudra bien trouver une issue positive, mais il va falloir se battre. L'espoir, c'est une invitation, pas une garantie.